Vous écoutez, on lit pour vous.
L'activité physique contre la dépression postpartum. Un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 9 novembre 2024 dans Le Haute-Côte-Nord. La pratique d'une activité physique modérée après l'accouchement réduit considérablement le risque de dépression postpartum, démontre une méta-analyse à laquelle a participé une chercheuse de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Les meilleurs résultats étaient obtenus lorsque l'activité physique était entamée pendant les 12 semaines après l'accouchement et au moins 80 minutes d'activité physique modérée par semaine étaient nécessaires pour obtenir un bénéfice. Citation. « L'idée, c'est d'y aller graduellement et d'y prendre du plaisir », a dit la professeure Stéphanie Mérucha du département des sciences de l'activité physique de l'UQTR. « Si la femme est fatiguée, ou si l'accouchement a été difficile, on peut commencer par du léger. Sortir prendre une petite marche, ça compte. Mais le message que je donne, c'est vraiment d'aller marcher à l'extérieur ou dans un centre d'achat avec la poussette. L'idée, c'est de sortir de la maison, de se remettre à bouger parce qu'on sait que pour la santé mentale, c'est vraiment important. Ça brise l'isolement aussi si on est capable de le faire avec d'autres mamans, avec d'autres personnes. » Fin de citation. La professeure Rucha et ses collègues ont analysé les résultats de 35 études regroupant un peu plus de 4000 participantes provenant de 14 pays. Ils ont constaté qu'en comparaison avec aucune intervention, les interventions basées uniquement sur l'activité physique étaient associées à des symptômes moins intenses d'anxiété et de dépression après l'accouchement. Ces interventions réduisaient pratiquement de moitié, soit 45 % le risque de symptômes dépressifs majeurs postpartum. Citation. On voit vraiment un impact majeur. Fin de citation, a dit la professeure Rucha. Une intervention débutée dans les 3 mois après l'accouchement a entraîné une plus grande réduction des symptômes dépressifs qu'une intervention entamée après ce délai. Plus la quantité d'exercices pratiqués était importante, plus l'impact sur les symptômes dépressifs était marqué. Le seuil minimum pour obtenir une réduction modérée de la sévérité des symptômes était toutefois de 80 minutes d'activité physique modérée, marche rapide, aquagym, vélo stationnaire, entraînement à la résistance avec des bandes, des poids ou le poids corporel, par semaine, à raison de 4 séances par semaine. Citation. Quand on a un nouveau-né, un bébé, souvent, on va se promener avec la poussette à l'extérieur, a rappelé la professeure Rucha. Donc, on est capable d'y jumeler un effet bénéfique pour notre santé mentale et aussi de prendre l'air puis d'aller se promener, ce qu'on fait de toute façon assez souvent avec une poussette quand on vient d'accoucher. Fin de citation. Il n'est pas inhabituel pour une femme de ressentir une certaine anxiété ou même de présenter des symptômes dépressifs après un accouchement. On estime que la problématique touche entre 9 et 13 % d'entre elles, même si l'ampleur de la situation est fort probablement sous-estimée. Si de multiples études ont démontré que l'activité physique peut contrer efficacement les symptômes dépressifs et anxieux en général, cette méta-analyse complète la littérature scientifique qui porte spécifiquement sur ce qui se produit après l'accouchement, une période délicate pour la mère et pour son enfant. Citation. La dépression et l'anxiété maternelle sont associées à une diminution des soins maternels et à un affaiblissement des soins et de l'attachement de l'enfant, avec d'autres liens avec un retard dans le développement cognitif, émotionnel et social de l'enfant. Fin de citation, écrivent ainsi les auteurs de l'étude. Citation. On a aussi des études qui démontrent que les enfants qui ont eu une maman dépressive ou très anxieuse quand ils étaient tout petits vont ou peuvent développer des problèmes cognitifs, émotionnels ou sociaux plus tard dans leur vie, a complété la professeure Rucha. Le traitement est donc fondamental. Fin de citation. Les interventions classiques face à une dépression postpartum, comme la médication ou la thérapie, ne sont pas accessibles à toutes les mères en raison d'obstacles comme le coût ou le manque de temps. Certaines préoccupations existent aussi quant à la prise d'antidépresseurs pendant l'allaitement en raison de la transmission possible des molécules au bébé. compte tenu de l'efficacité comparable observée de l'exercice postpartum dans la réduction de la gravité des symptômes dépressifs par rapport au traitement conventionnel, citation, l'exercice pourrait offrir aux mères des solutions de rechange relativement sûres, accessibles et peu coûteuses pour traiter les problèmes de santé mentale. Fin de citation, notent les auteurs. Citation, le message clé, c'est vraiment de dire que l'activité physique est une thérapie au même titre que la thérapie pharmacologique avec des effets similaires, a conclu la professeure Ruchat. Si on compare les deux, on est capable d'aller chercher les mêmes effets. Fin de citation. Les bienfaits de l'activité physique sur la santé mentale des femmes enceintes ou en postpartum passeraient, entre autres, par une amélioration de l'estime de soi, par le biais de l'image corporelle et de la perception physique de soi, par une amélioration de l'auto-efficacité, par la croyance en soi et une participation soutenue, par une réorientation de l'attention vers d'autres pensées angoissantes et par l'adoption de stratégies d'adaptation psychologique à l'exercice. Les conclusions de cette étude ont été publiées par le British Journal of Sports Medicine. C'était « L'activité physique contre la dépression postpartum », un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 9 novembre 2024 dans le Haute-Côte-Nord.
Perdu 50 jours en forêt et retrouvé, un texte de Marie-Ève Maurras, paru le 30 novembre 2024 dans La Presse. L'histoire de survie en forêt de Samuel Benastic a fait le tour du monde. Le jeune homme de 20 ans devait camper une dizaine de jours dans un parc provincial de la Colombie-Britannique, mais c'est finalement au bout de 50 jours qu'il a été retrouvé après avoir survécu dans des conditions hostiles. Que s'est-il passé? Le 7 octobre 2024, Samuel Benastic est parti seul pour ce qui devait être une expédition de camping dans le parc provincial Redfern-Kylie, dans le nord de la Colombie-Britannique. Pendant des semaines, une cinquantaine de bénévoles ont participé aux recherches pour le retrouver, mais avec le mercure qui chutait parfois à moins 20 degrés Celsius la nuit, l'espoir s'amenuisait. Il s'agit d'une histoire assez rocambolesque, commente François-Xavier Gagnon, un Québécois installé en Colombie-Britannique depuis 25 ans, sauveteur dans l'équipe de recherche et de sauvetage de Lions Bay à Vancouver. Le parc où s'est perdu Sam Benastic, c'est le même style de forêt que vous allez trouver au nord du parc de la Vérendrye, indique-t-il. C'est de l'épinette et il n'y a pas grand-chose à manger. À ce temps de l'année, les conditions météo sont difficiles. On a eu beaucoup de pluie, de froid, de neige. Ce sont des conditions extrêmes pour survivre. Quand Sam Benastic a-t-il été retrouvé? Mardi 26 décembre 2024, deux travailleurs de l'industrie pétrolière qui allaient au travail ont aperçu un homme se dirigeant vers eux. C'était Sam Benastic. Plusieurs sources rapportent qu'il avait un sac de couchage coupé, enroulé autour de ses jambes, et qu'il se déplaçait difficilement en s'appuyant sur un bâton de marche. Les travailleurs l'ont mis à l'abri dans leur camion et lui ont donné un sandwich. Comment a-t-il survécu? Selon ce que rapporte la Gendarmerie royale du Canada, GRC, Sam Benastic aurait raconté à la police qu'il est resté dans sa voiture pendant quelques jours avant de marcher jusqu'à un ruisseau en montagne. Il aurait campé là pendant environ 2 semaines. C'est ensuite au bas d'une vallée, dans le lit d'un ruisseau asséché, qu'il aurait construit un abri. La grand-mère du jeune homme a déclaré à Radio-Canada Vancouver qu'elle est convaincue que Sam Benastic ne s'est pas retrouvé dans cette situation volontairement. Nous ne savons pas quand il s'est perdu. C'est ça l'histoire. Nous ne comprenons pas cette partie, a-t-elle déclaré. Chercher quelqu'un après 50 jours sans nouvelles, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin, signale François-Xavier Gagnon. Le jeune homme était équipé pour faire 10 jours de randonnée. Ça l'a vraiment aidé. Il avait une tente, un sac de couchage, un réchaud, de la nourriture pour plusieurs jours, probablement une trousse de premiers soins. Que faire si on se perd en forêt? L'erreur qui est souvent faite, c'est de ne pas s'arrêter et réfléchir, mais de continuer, dit André Pelletier, co-auteur du livre « Guide complet de vie et survie en forêt ». Une personne perdue en forêt est souvent à 5 minutes de ne plus être perdue, illustre-t-il. Généralement, on réalisera assez rapidement qu'on a quitté un sentier, par exemple. Si tout de suite on prend les bonnes décisions de s'arrêter, de marquer l'endroit où on est, de faire de petits allers-retours, c'est certain qu'on reste près du bon chemin, ajoute M. Pelletier. Que prévoir avant de partir en randonnée? D'abord, trouver un ange gardien qui sera responsable d'aviser les autorités si on a du retard sur notre itinéraire, suggère André Pelletier. Ça a pour effet de s'assurer que les secours vont se mettre en branle. L'autre effet est psychologique. On sait que les secours vont arriver. On a alors plus de chances de prendre de bonnes décisions, d'être plus prudent, calme et réfléchi, dit l'auteur. Quant aux essentiels à avoir sur soi, ils tiennent à 3 choses. Un briquet ou des allumettes, un sifflet et un couteau. Il faut vraiment les avoir sur soi. Pas dans une poche de manteau qu'on pourrait laisser sur une branche parce qu'on a chaud, ou dans la voiture, précise André Pelletier. Évidemment, on pourra se servir du briquet pour faire du feu, du sifflet pour appeler les secours sans s'époumoner, et du couteau comme outil. Et le cellulaire? L'appareil est de plus en plus utile à ceux qui sont mal pris dans la forêt. Dans les 10 dernières années, on fait beaucoup moins de recherches et plus de sauvetages. Avec les téléphones et les systèmes satellites, les gens sont perdus, mais ils nous contactent et on sait où ils sont, explique François-Xavier Gagnon. Même sans réseau cellulaire, les plus récents modèles de téléphone permettent aux utilisateurs de se connecter à des satellites en orbite basse. C'était « Perdu 50 jours en forêt et retrouvé », un texte de Marie-Ève Maurras, paru le 30 novembre 2024 dans la presse.
Participants recherchés pour une étude utilisant la greffe fécale chez les personnes vivant avec le VIH. Une collaboration spéciale du CUSM, paru le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue. La thérapie antirétrovirale, TAR, contrôle l'infection par le VIH et contribue à améliorer la santé et la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Cependant, même lorsque le traitement antirétroviral est suivi correctement, persiste de l'inflammation. Cette inflammation peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de dysfonctionnement du cerveau et parfois de cancer. Pour diminuer cette inflammation, il est nécessaire de développer des thérapies anti-inflammatoires. L'équipe du Dr Jean-Pierre Routy au Centre universitaire de santé McGill, CUSM, à Montréal, évalue l'efficacité de la greffe fécale, l'étude GUTSI, et des participants sont recherchés. Si vous vivez avec le VIH, on vous expliquera de quelle façon vous pourrez vous joindre à l'étude. L'étude GUTSI est une étude visant à améliorer la santé des personnes vivant avec le VIH, PVVIH, sous traitement antirétroviral, TAR. Malgré le succès remarquable des TAR pour bloquer la multiplication du virus et le rendre indétectable, une inflammation persiste chez les PV-VIH et peut augmenter le risque de problèmes de santé. L'inflammation provient notamment de l'intestin où le microbiote, les microbes qui vivent normalement dans notre intestin, des PV-VIH, manquent de bactéries bénéfiques. Ce microbiote est complexe et contient des dizaines de milliards de micro-organismes, dont au moins 1000 types de bactéries différentes. De nombreuses bactéries sont bonnes et agissent comme une barrière pour prévenir les dommages intestinaux et l'inflammation. La TAR seule ne suffit pas à améliorer la composition du microbiote. On cherche donc à rééquilibrer le microbiote des PV-VIH pour réduire l'inflammation. Pour cela, notre étude explore une solution innovante, la transplantation de microbiote fécal, TMF. Qu'est-ce que la transplantation de microbiote fécal? La TMF consiste à remplacer les microbes intestinaux d'un receveur par ceux d'un donneur en santé et ainsi introduire des bactéries intestinales bénéfiques de l'intestin. Pour cela, on met le microbiote du donneur dans des capsules spéciales qui vont se dissoudre dans l'intestin et non dans l'estomac. Cette méthode a montré des résultats prometteurs pour améliorer la santé intestinale et réduire l'inflammation dans d'autres maladies comme les infections à C. difficile, les maladies chroniques de l'intestin ou certains cancers. L'objectif de l'étude GUTSI est de voir si la TMF en capsule pris avec les médicaments antirétroviraux peut réduire l'inflammation. Pour les PV-VIH, Santé Canada autorise l'utilisation de la TMF dans le cadre de l'étude GUTSI pour évaluer la modification du microbiote intestinal pour réduire l'inflammation. Cela pourrait aussi améliorer la fonction immunitaire et réduire le risque lié à l'inflammation. Pourquoi participer? En rejoignant cette étude, vous pourrez contribuer à une recherche qui pourrait améliorer les traitements et la qualité de vie des PV-VIH. Aider à comprendre l'influence de la santé intestinale sur le bien-être global des personnes. Qui peut participer? Nous recherchons des participants vivant avec le VIH sous TAR avec une charge virale indétectable depuis au moins 3 ans, âgés de 18 ans ou plus, présentant des marqueurs immunitaires spécifiques, comme un faible ratio CD4-CD8, n'ayant pas une co-infection active avec le virus de l'hépatite B ou C, ne prenant pas d'antibiotiques depuis 3 mois. À quoi s'attendre? L'étude de GUTSI est une étude avec un groupe contrôle, placebo. Durant 6 visites à la clinique du CUSM, l'équipe examinera l'histoire médicale du participant. Des prises de sang seront réalisées pour s'assurer que le virus reste indétectable et aussi pour mesurer le niveau d'inflammation. À chaque visite, nous demanderons aux participants de collecter un échantillon de sel à la maison. Les participants prendront 30 à 40 capsules de TMF ou des capsules avec un produit neutre à 2 visites, puis seront suivis pendant 3 mois. Des visites de suivi seront organisées pour évaluer les changements dans la santé intestinale et la fonction immunitaire. Toutes les procédures sont sûres et la confidentialité de tous est notre priorité. La participation est volontaire et les participants peuvent se retirer de l'étude quand ils le souhaitent. Une compensation financière sera offerte à chaque visite. Rejoignez notre étude pour faire avancer la science et améliorer la vie des PV-VIH. Pour plus d'informations, contactez notre équipe, soit Carolina Berini, coordonnatrice de recherche, à l'adresse courriel carolinaberini@muc.mcgill.ca, carolina.berini@muhc.mcgill.ca ou au 514 934-1934, extension 34240, ou José Giroir, infirmière de recherche, à l'adresse courriel josé.giroir@muc.mcgill.ca, josé.giroir@muhc.mcgill.ca. C'était participant recherché pour une étude utilisant la greffe fécale chez les personnes vivantes avec le VIH. Une collaboration spéciale du CUSM parue le 25 novembre 2024 dans le magazine Fugue.
Visite au Musée des Moulages de Paris, une incursion dans l'histoire de la dermatologie. Un texte de Marine Cornu, paru le 31 octobre 2024 dans Québec Science. À Paris, Québec Science a visité la plus grande collection de cires dermatologiques au monde. Des pièces uniques qui ont permis de former des générations de médecins. Lorsqu'on pousse la porte du Musée des Moulages, au cœur du vieil hôpital Saint-Louis à Paris, on est immédiatement ramené 150 ans en arrière. Le hall de ce bâtiment défraîchi s'ouvre sur un large escalier. Les murs sont couverts de portraits des pontes de la dermatologie. Il n'y a qu'une femme, qui se sont succédées dans cet établissement depuis le début du 19e siècle. C'est ici qu'est née cette discipline médicale, et c'est ici qu'elle atteint son apogée. L'hôpital Saint-Louis fut, avec ses 6 services spécialisés et ses 100 000 consultations par année au tournant du 20e siècle, le plus grand centre de dermatologie du monde. À l'étage, des centaines de thèses de médecine et d'ouvrages de référence couvrent les murs du sol au plafond. L'odeur des vieux livres et du bois est envoûtante. Rien ne semble avoir bougé depuis qu'on y a classé les derniers dossiers. Mais le clou du spectacle, c'est une immense salle rectangulaire qui abrite dans des vitrines en bois d'étranges morceaux de corps humain. L'effet est saisissant, mais le lieu est étonnamment apaisant, avec son plancher patiné et ses allures de boutique d'apothicaire. Y sont exposés au total 4 935 moulages en cire incroyablement réalistes de pieds, de mains, de visages, de parties génitales, arborant toutes les maladies de peau possibles et imaginables. Les pathologies sont classées par ordre alphabétique, explique notre guide Sylvie Dorizon, la gardienne de ce lieu ouvert au public sur rendez-vous. Tous ces moulages ont été fabriqués à des fins pédagogiques pour les étudiants en médecine. L'histoire commence dans les années 1860, au moment où l'école de dermatologie autrichienne commence à concurrencer la prestigieuse école française. Les étudiants boudent alors l'hôpital Saint-Louis au profit d'universités plus modernes qui font la part belle au microscope. Pour raviver l'intérêt, le docteur Charles Lehler, alors chef de service à Saint-Louis, a l'idée d'utiliser des représentations en relief des maladies. Il tombe, au détour d'une promenade, sur la boutique de Jules Barretta, qui fabrique des fruits en carton-pâte. Le médecin débauche l'artisan et lui demande de l'accompagner pendant 2 ans lors de ses consultations. En 1865, Jules Barretta fabrique son premier moulage, un nez d'homme couvert de syphilide acnéique. Les moulages étaient réalisés sur des patients vivants, explique Sylvie Dorizon. Le mouleur posait d'abord de la graisse ou de la peau de baudruche, une pellicule en intestin d'animal, pour protéger la lésion, puis faisait un moulage en plâtre. Une fois le moule durci, il en tapissait l'intérieur de couches successives de cire, puis ajoutait de la résine et des pigments avant de retirer le plâtre. Mais La céroplastie, c'est l'art du secret. On ne connaît pas les recettes exactes. Au vu du florilège d'excroissances, de tumeurs, de boutons et de chancres en tout genre représentés dans la collection, on se demande en effet comment Jules Barretta s'y est pris pour ne pas arracher les plaies ou martyriser les malades. C'était peut-être d'ailleurs parfois le cas. Il trichait probablement en resculptant certains moulages et en leur ajoutant du relief pour recréer les boursouflures, selon la thèse d'un plasticien de l'école du Louvre qui s'est récemment penché sur ces procédés. La collection est vite devenue importante, relate Sylvie Dorizon. Elle a été installée ici, dans ce bâtiment, qui a été inauguré en 1889 lors du premier congrès international de dermatologie pour montrer le savoir-faire de la France. Beaucoup de médecins étrangers ont été impressionnés et ont voulu avoir le même type de collection. Ces pièces de cire ont été utilisées pour l'enseignement jusqu'en 1960. Aujourd'hui, elles servent encore de décor à certaines réunions de dermatologie du personnel de l'hôpital. Régulièrement nettoyées et restaurées, elles sont dans un état remarquable. L'injection de pigments se faisait en profondeur, comme pour un tatouage. Les couleurs sont donc très bien conservées, fait remarquer notre guide. Il fallait aussi que les pièces soient très solides. Il y avait environ 4000 emprunts par an pour les cours. Si on reconnaît certaines maladies, comme l'acné, l'eczéma ou le psoriasis, d'autres font heureusement figure d'un autre âge. C'est le cas de la syphilis avancée qui se manifeste par des lésions cutanées terribles. Au 19e siècle, l'étude de ce mal, la syphiligraphie, était d'ailleurs la branche principale de la dermatologie. La galerie supérieure du musée en donne un bon aperçu. S'y succèdent des moulages impressionnants de visages mutilés, de nouveau-nés couverts d'ulcères et de torses de jeunes filles déjà profondément marquées par cette maladie vénérienne. On sort de ce lieu insolite en mesurant l'ampleur des progrès de la médecine. Et en appréciant les conditions sanitaires de notre époque. C'était Visite au Musée des Moulages de Paris, une incursion dans l'histoire de la dermatologie, un texte de Marine Corniou paru le 31 octobre 2024 dans Québec Science.